mais tout de suite le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein, salut les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver comme tous les samedis, c'est la tradition. Et avant de revenir sur quelques-uns des temps forts de la semaine, Gilles, c'est devenu maintenant un rendez-vous tous les samedis. La Fondation Jean Jaurès et l'IFOP suivent l'évolution du moral des Français en temps de confinement, l'évolution donc de notre moral. Et qu'est-ce que nous avons en tête, Gilles, depuis maintenant cette quatrième semaine qui est terminée, quatrième semaine de confinement ?
Oui, ce que nous suivons, c'est un panel de 35 Français de tous âges, de toutes professions, qui habitent aux quatre coins du territoire et qui remplissent chaque jour un cahier de confinement. Ouais. Si j'avais, je résumais, la première semaine, c'était l'effervescence, la deuxième semaine, c'était la peur, la troisième semaine, on l'avait vu la semaine dernière, c'était la lassitude. Si on doit caractériser cette quatrième semaine, c'est une mutation de la peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une peur initiale du confinement, la peur d'être isolé, comment je vais m'organiser, et à cela s'est ajoutée la peur du déconfinement.
La peur du déconfinement
qui apparaît. Eh oui, le déconfinement qui apparaît pour beaucoup de Français à la fois filandreux. Ils espéraient au début que ça serait un moment libérateur, une grande fête, une folie.
Oui.
Et ils ont compris que ce serait un processus chaotique, dont maintenant ils savent a priori quand ils devraient commencer, mais dont ils ont bien compris qu'ils ne savent pas quand ils devraient se terminer. Et surtout, ils redoutent que ce soit un moment dangereux. De manière ironique, ils disent « Le problème aujourd'hui, c'est de contracter le virus. Le problème demain, ça sera de ne pas l'avoir contracté. » Et beaucoup, évidemment, hein, attendent avec impatience le déconfinement, mais beaucoup aussi, oui, et parfois les mêmes, le redoutent. Parce qu'ils redoutent d'être exposés au virus et il sera pas si évident de les faire ressortir de chez eux. Et ce faisant, c'est là où on voit la deuxième crainte, la deuxième mutation, c'est que à la peur sanitaire s'ajoute la peur économique. La peur sanitaire, elle a évidemment pas disparu, mais elle a évolué. Il y a chez certains, elle a diminué. Ceux qui sont confinés, ils ont l'impression d'être dans une bulle. Et surtout, on l'oublie trop souvent, chez ceux qui habitent dans des régions peu touchées par l'épidémie. Et en revanche, elle a augmenté chez ceux qui continuent de se rendre sur le lieu de travail et davantage encore chez ceux qui sont de plus en plus nombreux, qui ont un ami, un proche, une connaissance qui est touchée sévèrement par le virus. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que la peur économique, je termine par là, a fortement émergé. Et ça c'est nouveau. Soit c'est une crainte personnelle, on voit un étudiant qui dit quand je vais entrer sur le marché du travail, je crains d'être une nouvelle génération sacrifiée. Ce sont tous ces salariés en chômage partiel qui redoutent que le temporaire devienne durable et qui basculent dans le chômage. Et puis pour tous, c'est le sentiment que les chiffres avancés par l'État sont absolument vertigineux. Et donc, dernière phrase, la dernière mutation, c'est que on espérait que le après, ça serait différent du avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, les Français redoutent que le après soit pire que le avant, même si il y a une part de rêve qui demeure. Je termine par cette citation d'un des Français qui, dans ses cahiers de confinement, tout n'est pas perdu, rien n'est écrit, nous pouvons changer.
Natacha, est-ce que vous expliquez ces apparentes contradictions, que le déconfinement ne soit pas seulement vécu comme un espoir, comme une perspective réjouissante ?
Ça semble évident à différents points de vue. Premier point, et on l'avait déjà évoqué ici, la question du discours totalement contradictoire sur cette fameuse immunité de groupe. Là, ça commence à être un tout petit peu abandonné, et heureusement, mais quand même pendant 2 semaines, on nous a servi l'idée que le déconfinement ne pouvait se faire en toute sécurité et correctement que si on atteignait une certaine immunité de groupe, ce qui est une contradiction totale avec le fait qu'on a confiné justement pour que les gens n'attrapent pas la maladie.
Oui.
Et les discours qui ont commencé à surgir, le projet d'Anne Hidalgo par exemple, de faire un carnet d'immunité, une sorte de certificat de passe pour ceux qui auraient eu le virus, tout ça a ajouté une confusion totale, d'autant plus qu'on s'aperçoit que les choses scientifiquement, médicalement sont plus compliquées que ça.
Et justement, on en parlera avec Roselyne Bachelot.
Voilà, sur le discours purement médical, il y a eu un problème. Ensuite, le déconfinement, les gens l'avaient sans doute pas suffisamment anticipé, mais en tout cas, ils l'ont bien compris en écoutant Macron. qui a bien précisé que le 11 mai était un point de départ. Et en effet, l'idée est là, c'est-à-dire que tout ne fait que commencer. D'abord, du point de vue, en effet, de la sécurité, c'est-à-dire que on ne peut pas rassurer les gens sur le déconfinement si on ne leur dit pas qu'on a les outils pour qu'ils soient protégés, d'où ce problème toujours le même des tests. Et
oui,
Emmanuel
sûr.
Macron, dans son discours, n'a pas été clair sur cette question des tests.
Il a continué à expliquer
qu'on n'allait pas tester tout le monde parce que ça ne servait à rien. On va y revenir. Mais ça ajoute là aussi de la peur et de la confusion. La question des écoles, puisque le message qui est envoyé, c'est de dire, en gros, le restaurant, c'est dangereux, donc on va continuer à le fermer. Mais l'école, c'est pas dangereux. Comment voulez-vous que les gens se projettent et comprennent dans quelque chose qui leur semble là aussi contradictoire ? Donc là aussi, il va falloir petit à petit clarifier, petit à petit rassurer. Et puis, la peur économique, en effet, là aussi, c'est une évidence.
Oui, bien sûr, elle est inévitable.
Au moins 25% des restaurants qui risquent de rester sur le carreau, c'est absolument majeur. Et c'est pour ça, là aussi, ça va être le sujet de notre discussion, notamment avec Roselyne Bachelot. Mais opposer... enjeu sanitaire et enjeu économique et social me semble totalement absurde parce que en fait il y a des enjeux sanitaires dans l'enjeu économique et social. Les crises économiques créent de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté qui elle-même engendre plus de maladies. Donc oui, tout ça doit être pensé totalement en même temps, bien sûr.
Alors justement, Gilles Finkelstein, vous suivez le moral des Français, mais pas celui du président de la République. On ne sait pas donc ce qu'il y avait dans la tête d'Emmanuel Macron lundi soir quand il prononçait ces mots.
Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité. Bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde.
C'était donc lundi soir, on aurait pu prendre d'autres extraits, mais nous avons choisi celui-ci qui parle de la France d'après, qui esquisse quand même un petit espoir. Près de 37 millions de Français l'ont regardé, écouté. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce que vous avez retenu, comme beaucoup, le 11 mai ? Le 11 mai, d'abord et avant toute chose, Gilles.
Alors, peut-être deux choses. D'abord, ce que ça dit de lui, d'Emmanuel Macron, dont je ne suis effectivement pas dans sa tête, mais ça montre en tout cas, je crois, qu'il a compris un impératif qui est celui d'un changement profond. C'est la leçon du mois écoulé où on voit que la confiance envers le gouvernement dans la gestion de la crise s'est affaissée. C'est aussi la leçon de l'histoire. Elle était bien rappelée par Alain Duhamel dans sa tribune de Libération de cette semaine. Le risque, après toute grande épreuve, est de remercier celui qui a dirigé. Et quand on dit remercier, c'est pas de lui dire merci, mais c'est de lui dire au revoir.
Au revoir.
Bon, et donc, la nécessité d'un changement profond, on le voit de manière implicite, on l'a vu de manière implicite dans un changement de posture d'Emmanuel Macron dans son allocution. On l'a vu de manière explicite dans la reconnaissance, ou en tout cas dans la demi-reconnaissance d'un certain nombre d'erreurs, et dans l'extrait que vous avez passé d'une volonté de changement en profondeur. Après, on peut débattre de la sincérité, de la capacité, de la légitimité d'Emmanuel Macron pour le faire, mais c'est la première chose qui m'a frappé. Il a compris cet impératif de changement profond. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé, c'est pas sur lui, mais c'est sur nous. C'est-à-dire sur la réception de ce discours. On a tous un biais idéologique, politique. Chacun a les siens. On peut essayer de les mettre à distance. Mais il y a eu surtout un biais cognitif.
C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Il y a eu, j'ai recompté en relisant le discours après, près de 25 annonces. Qu'est-ce qui a été retenu? Une chose, le 11 mai, et sous sa forme positive, c'est-à-dire non pas on en a encore pour 4 semaines de confinement, mais le 11 mai, c'est sorti. Non pas ça va être progressif, mais le 11 mai, c'est la sortie. Et ce faisant, ça montre que nous entendons ce que nous attendons. Il y a un biais d'attention. Et nous entendons ce que nous espérons. Il y a un biais de croyance. Et donc, ça en dit aussi beaucoup sur nous.
Même si certains ont entendu ce discours comme s'ils recevaient une douche froide, Natacha, qu'est-ce que vous en avez retenu ?
il y a, comme souvent, la forme et le fond. Sur la forme, tout le monde a remarqué qu'Emmanuel Macron avait abandonné ce ton martial des débuts, mettait en avant l'humilité, parfois même la reconnaissance de certaines failles, de certains ratés, comme il l'a dit. Tout de même, il faut là aussi analyser ça comme un discours savamment travaillé. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir que Emmanuel Macron reconnaît des failles et des ratés en disant « j'ai vu des failles et des ratés, on ne sait pas qui en est responsable ». Et à côté de ça, « nous avons réussi, nous avons été créatifs ». C'est-à-dire, on s'associe à la réussite, et puis bon, les failles, on ne sait pas d'où ça vient, et c'est d'ailleurs. Dans le choix de la structure grammaticale, il y a quelque chose de très intéressant et d'assez significatif. De même, le discours, l'extrait que nous avons passé au début est oui. intéressant, puisqu'il dit qu'il faut abandonner les idéologies. De fait, il abandonne surtout la sienne. C'est-à-dire que ce discours, surtout la fin, est une reconnaissance que tout ce qui était le cœur de sa pensée, notamment pendant la campagne présidentielle, a été démenti. Les flux, le mouvement, l'intégration dans la mondialisation, dans l'accélération du monde, la start-up nation, tout ça est balayé. Donc ce ne sont pas les idéologies qu'il faut revoir, c'est l'idéologie qui prévalait au modèle et au monde d'avant. Et c'est là où, évidemment, Gilles disait que les gens avaient peur de l'après, que les Français se méfiaient de ce qui allait en sortir.
Oui.
Et en effet, tout dépend de la façon dont l'après va être pensé. Or, nous voyons que donc, sur le plan purement immédiat du traitement de la crise, il y a reconnaissance des erreurs, mais il y a aussi du flou. Sur la question des masques, sur la question des tests, ça continue à être flou. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles, c'est que je pense que l'inquiétude, elle vient aussi du fait que les gens ont très bien entendu qu'il y avait des choses qui étaient floues dans ce discours sur les points précis qui étaient essentiels, à savoir la sécurité du déconfinement. Et qu'en revanche, sur le projet à venir, là, Emmanuel Macron, c'est la fin de son discours, retrouve son appétit pour les envolées lyriques, alors qu'en fait, il y a des choses extrêmement concrètes à discuter. Alors, il a donné cette semaine une interview au Financial Times, qui est aussi extrêmement intéressante, et dans laquelle il plaide pour son modèle européen, où il alerte sur la nécessité, par exemple, enfin, il plaide toujours pour les eurobonds, la nécessité de mutualiser les dettes, et là, on entre dans des problématiques qui sont plus concrètes, que Bruno Le Maire a décliné aussi face à la Commission des Finances sur le risque. Bruno Le Maire a alerté, c'est très intéressant, sur le risque majeur de divergence des économies dans la zone euro qui pourrait amener à l'explosion de cette zone euro. Sachant qu'en fait, les divergences, elles se sont creusées depuis le début de la création de l'euro. Et tout ça, aujourd'hui, est essentiel. Nous allons nous en apercevoir de plus en plus parce que c'est la question de savoir comment nous allons sortir de cette crise, si l'Union européenne va réussir à se réinventer ou pas, si elle va sortir des erreurs qui ont été les siennes et si, là aussi, le président de la République va pouvoir porter un projet oui. différent. Je comprends que certains citoyens aient un doute dans la mesure où l'idée est quand même que il est assez surprenant de prendre ceux qui se sont trompés pour essayer de corriger les erreurs.
Et justement, on va parler maintenant de ces nombreux, très nombreux citoyens qui ont dû éprouver plus que des doutes. Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Je comprends qu'on protège des personnes qui sont vraiment fragiles ou qui ont une comorbidité. Mais mettre dans le même sac toutes les personnes qui ont plus de 70 ans, ça n'est pas juste, c'est complètement arbitraire. Il y a à 70 ans, et j'en fais partie, des tas de seniors qui sont actifs encore. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des hommes politiques, il y a des chauffeurs de taxi, il y a des tas de gens qui travaillent au-delà de 70 ans et qui sont robustes.
On vient d'entendre la colère de la psychologue Marie de Hennezel. Comme elle, toute la semaine, beaucoup étaient révoltés à l'idée d'être les grands exclus du confinement en raison de leur âge, même si on ne sait pas si on est vieux à 65, à 70 ou à 75 ans, puisque le président de la République ne l'a pas précisé lundi dernier. La mesure a été souvent décrite, dénoncée comme discriminatoire, et hier soir, communiqué de l'Élysée, le chef de l'État en appelait à la responsabilité individuel. À partir de quel âge est-ce qu'on est vieux, Gilles ? 65, 70, 75 ans ? Personne n'est capable de le dire.
Non, personne n'est capable de le dire. Natacha Polony disait tout à l'heure qu'il y avait eu de l'inquiétude parce qu'il y avait eu du flou, notamment sur la sécurité du déconfinement. Il y a eu du flou aussi sur cette question du déconfinement des seniors. Et je crois vraiment que le confinement obligatoire maintenu des plus de 70 ans ou des plus de 65 ans aurait été à la fois fragile d'un point de vue constitutionnel, très coûteux d'un point de vue psychologique, discutable d'un point de vue sanitaire et surtout aurait été calamiteux d'un point de vue symbolique dans la représentation collective que l'on se fait du vieillissement. Donc il y a eu
Mais
des hésitations.
Pourquoi l'avoir annoncé ?
Il y a eu, alors ça n'a pas vraiment été annoncé. Il y a eu des hésitations, il y a eu des ambiguïtés. Je crois qu'on a évité avec le communiqué du président de la République d'hier soir une mauvaise décision. Mais justement, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un mélange de statistiques, de droit et de politique. La statistique, on sait avec ce virus qu'il vaut mieux être une femme et qu'il vaut mieux avoir un groupe sanguin O. On sait surtout qu'il vaut mieux ne pas avoir une pathologie associée, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. 90% des décès avaient aussi une autre pathologie. Et qu'il vaut mieux ne pas être âgé, puisque 80-85% des décès avaient plus de 70 ans. Et donc, la statistique montre qu'il y a des personnes qui sont à risque et même...
18 millions de personnes à risque d'être contaminées, disait Jean-François Delfraissy, le président
du
Conseil scientifique.
Le 18 millions... Ça vient de quoi ? Ça vient de ceux qui ont à la fois une affection de longue durée, 11 millions de personnes, et ceux qui ont plus de 70 ans, 10 millions de personnes, sachant qu'on peut à la fois avoir une affection de longue durée et avoir plus de 70 ans, donc ça fait 18 millions. Là, on est sur un critère qui, disons, d'un point de vue juridique, peut être considéré comme un critère objectif. En revanche, l'obésité, dont on sait que c'est aussi un facteur de risque, n'est pas un critère objectif. Et donc, si on devait sélectionner, déterminer la catégorie de la population qui doit obligatoirement se confiner, il y avait un problème. Et arrive enfin la politique, c'est est-ce que, pour protéger les personnes à risque, est-ce qu'on a recours à la confiance, c'est-à-dire au conseil éventuellement même rigoureux, ou à la contrainte, c'est-à-dire à un confinement obligatoire. Et là, il y a eu une ambiguïté, puisque quand on regarde ce que disait avant l'intervention du président de la République le conseil scientifique, un confinement strict doit être impératif. Quand on lit ce qu'a dit Emmanuel Macron, il y a eu cette interrogation. Ma conviction, c'est que l'âge est un critère. Il faut regarder la réalité en face, mais c'est pas le seul critère. Il doit être complété par ce que j'ai évoqué. Il doit être différencié. D'accord. Il y a un certain nombre de seniors qui sont, les seniors ne sont pas tous dans le même état, et que surtout, il faut que ce soit la confiance et pas la contrainte.
Natacha.
Oui, je pense que la question démocratique est majeure, c'est-à-dire que la démocratie, c'est un arbitrage entre l'intérêt individuel de chacun, la liberté aussi individuelle, et puis le bien commun. Si l'on considère le bien commun, on peut, et uniquement le bien commun, on en arrive, sans avoir aucune attention aux individus, à dire, mais enfin, pour le bien, il faut éviter un nouvel engorgement des urgences, et donc, il faut faire en sorte que les personnes à risque ne soient pas potentiellement contaminées. Et on en arrive là. Alors qu'en fait, la politique, c'est justement l'arbitrage, c'est le choix des prises de risques acceptables.
On va en parler avec Rosine Bachelot, justement.
Voilà, nous allons en parler, mais c'est le fait aussi que chaque citoyen est aussi maître de son destin du moment qu'il a conscience de ce bien commun. Et donc cet arbitrage doit être fait, or il est rendu plus difficile par une chose essentielle. Cette idée de confinement généralisé pour les plus de 70 ans, pour les pathologies, c'est 18 millions. Ça émane du comité scientifique, c'est-à-dire c'est un discours d'experts, c'est un discours de médecins, et les médecins ont montré qu'ils étaient essentiels dans cette crise qui est évidemment sanitaire. En revanche, nous voyons que les choix dans une société, dans une communauté politique, doivent être faits par les politiques en tenant compte de ce que disent les experts, mais en tenant compte aussi des autres experts déjà, c'est-à-dire des autres domaines qui sont aussi essentiels, et puis en tenant compte de la volonté des citoyens.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, la révolte.
La révolte des personnes de 70 ans, elle se comprend parfaitement.
Bien sûr.
Parce que, en effet, il y avait quelque chose de discriminatoire. Mais surtout, tout le problème est de savoir rapidement si le politique si le politique est légitime pour prendre les décisions. Et quand le politique est délégitimé, quand il y a une perte de confiance, eh bien le politique a tendance à se cacher derrière les experts, à abandonner son pouvoir aux experts. Ça s'est fait pendant des décennies avec les experts économiques et d'une certaine idéologie économique. Et ça se fait là, derrière des experts scientifiques, dont on voit que pour les meilleures raisons du monde, ils prennent en compte le point de vue purement médical, scientifique et statistique, comme le disait Gilles.
Oui.
Alors qu'il y a aussi le point de vue démocratique à prendre en compte, parce que quand on est face à des arbitrages différents, in fine, il n'y a que la démocratie, le respect des citoyens et de cette articulation complexe entre l'individuel et le collectif qui permet de résoudre à peu près les problèmes.
Et comment ça se passe ailleurs, chez nos voisins justement? Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Nous devons d'abord vérifier si avec les petits pas que nous allons faire, ouverture d'une partie des commerces, des classes du bac et du brevet, si avec ces petits pas donc, nous allons au-delà de nos limites ou pas. On pourra dresser un premier bilan au bout de 2 à 3 semaines et décider ensuite de ce qui sera encore possible.
On est très loin du lyrisme du président de la République. C'était la chancelière allemande Angela Merkel qui annonçait un assouplissement des mesures de confinement en Allemagne. Réouverture des petits commerces le 20 avril et donc des écoles le 4 mai, même si les grands rassemblements resteront interdits jusqu'à la fin du mois d'août. Comment comprendre ce que beaucoup présentent comme un modèle allemand, Gilles, puisque vous le regardez de près et que vous le suivez de près? Est-ce qu'ils font vraiment mieux que ce que nous faisons nous, et en ce cas, pourquoi ne pas faire comme eux, tout simplement?
D'abord, on voit la différence, alors évidemment avec deux pays qui n'ont pas les mêmes institutions, pas la même histoire, pas le même imaginaire, mais dans la gestion politique de ce dossier.
Et Angela Merkel a moins de pouvoir en vérité qu'Emmanuel Macron.
On n'a pas utilisé les mêmes mots. Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre », le président Steinmeier a dit « c'est un test d'humanité ». Il n'y a pas le même type de présence du politique. Emmanuel Macron est intervenu 4 fois de manière solennelle sans répondre à des questions. Angela Merkel est intervenue 4 fois en 14 ans. Et là, elle l'a fait après une conférence de presse et avec 4 heures de discussion derrière elle avec les présidents des Länder. Et donc, on n'a pas fait non plus avec le même style, hein, tout en mots pour Emmanuel Macron, tout en chiffres, on vient de le voir avec Angela Merkel. Bon, mais surtout, on ne le fait pas avec les mêmes résultats, et ça, c'est un mystère qu'il faut essayer d'éclaircir. La performance allemande est une réalité. Quand on regarde, non pas le nombre de cas, parce que c'est difficile de le savoir, mais le nombre de morts. On a, au jour d'aujourd'hui, aux alentours de 4 000 morts en Allemagne, aux alentours de 18 000
en France. 21 000 en Italie.
Alors, même si la comptabilisation peut être un peu différente, il peut y avoir des approximations, même s'il y a un décalage d'une semaine, il n'y a aucun doute, la performance allemande est une réalité. Si, à ce stade, avec ce que l'on sait aujourd'hui, on essaye de l'expliquer, je crois qu'il y a 2 ou 3 facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu
rapidement,
une meilleure anticipation. Avant la crise, l'Allemagne s'est préparé au vieillissement programmé de sa population. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lits de réanimation. Et face à la crise, elle a réagi plus rapidement et notamment commandé en masse des tests en s'appuyant, et c'est évidemment une différence de capacité, sur une industrie qui était plus puissante, notamment sur les composants de ces tests. Mais à cela, et peut-être qu'on l'évoquera avec Roselyne Bachelot, s'ajoute un système de santé qui est plus décentralisé, qui est géré par les Länder et pas par l'État, même s'il y a une déconcentration en France, une culture de la confiance, et notamment dans la science et dans les autorités publiques, qui fait que les Allemands ont été plus réactifs et plus disciplinés, et enfin, une grosse pincée de chance. L'Allemagne n'a pas la même structure familiale. Aujourd'hui, vous avez 19% des Français qui sont confinés seuls, vous avez 36% des Allemands, et donc ça fait moins circuler le virus. Et puis le virus est arrivé plus tardivement, donc l'Allemagne a pu se servir de l'expérience des autres. Il a été moins concentré géographiquement, il a davantage concerné les jeunes, mais tout ça fait que beaucoup de choses un peu mieux faites en Allemagne, mises bout à bout, font beaucoup mieux à l'arrivée.
Natacha, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console.
Le fait est que la question là, c'est d'en tirer les conséquences, de comprendre ce qui se passe et d'en tirer les conséquences. Parce qu'il y a en effet, Gilles a tout à fait raison, des éléments qui sont des éléments de chance ou des éléments de structure de population, puisque le fait qu'il y ait un vieillissement terrible de la population ne touche pas que l'Allemagne, mais aussi le Japon, mais aussi la Corée du Sud, c'est-à-dire ce sont les pays qui, jusqu'à présent, et même s'il faut rester prudent, s'en sortent le mieux. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, dans un sens, nous ne pouvons pas agir dessus et nous pouvons même nous réjouir d'avoir une population moins vieillissante. En revanche, là où nous devons en tirer les conclusions, c'est à la fois sur la dimension industrielle. En effet, ce qui aide l'Allemagne, c'est qu'elle a préservé son industrie et en particulier ses industries les plus essentielles. Nous avons embrassé en France le capitalisme à l'anglo-saxonne financiarisé. Nous en sommes devenus d'ailleurs des champions par notre école mathématique. L'Allemagne a préservé un capitalisme familial et industriel. C'est quelque chose d'absolument essentiel quand il s'agit de réagir et en effet de produire des tests avec des réactifs. Et puis, deuxième point, la question de l'inflation administrative française. La santé, les hôpitaux en Allemagne comportent 24%, enfin voient passer 24% de leur budget dans l'administration. En France, c'est 35%. Il y a là quelque chose qu'il faut absolument penser et il va falloir revoir cette organisation. Il y a de fait une déperdition de moyens dans l'organisation française.
Une question avant de retrouver Roselyne Bachelot. Est-ce que vous comprenez les différentes stratégies que suivent des pays qui sont pourtant voisins avec des structures qui ne sont pas si différentes malgré tout, une culture commune qui est une culture européenne? Pourquoi est-ce que chacun choisit son chemin? Natacha.
Mais Ali, la différence, elle est créée par la nécessité. Et c'est bien tout ce qui a été reproché à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est de n'avoir pas admis que leurs choix étaient dictés non pas par la science, mais par la carence, le manque d'armes industrielles. Le discours sur les tests, encore lundi dernier, Emmanuel Macron dit « ça n'aurait pas de sens de tester tout le monde ». Mais c'est pourtant ce que fait l'Allemagne, et l'Allemagne le fait parce que l'Allemagne le peut. Chez nous, et on va en parler avec Roselyne Bachelot, les ARS ont très peu réagi, donc n'ont pas permis à nos laboratoires de commander les réactifs suffisamment en avance, etc. Donc nous nous retrouvons avec un manque de tests. Or, certains spécialistes ont expliqué que lutter contre le coronavirus sans tester l'ensemble de la population, c'est se promener dans une pièce noire avec une lampe de poche.
Pourtant, d'autres disent que ça n'est pas absolument indispensable, à commencer par le président de la République. Comment comprendre, Gilles, ces stratégies si différentes? Et est-ce qu'on aurait mieux fait de s'inspirer de ce que font les autres, nos voisins ou plus loin?
Écoutez, je ne suis pas convaincu par les prémices de votre question, c'est-à-dire qu'il y ait des stratégies si différentes. En réalité, il y a deux grandes stratégies pour lutter. Soit il y a la stratégie, on l'a évoqué au début de cette émission, de l'immunité collective, et donc on laisse le virus circuler jusqu'à ce qu'une partie suffisante de la population soit immunisée. D'ailleurs, les données scientifiques les plus récentes mettent en doute la réalité de cette et la durée de cette immunité. Et la deuxième stratégie, c'est de ralentir la progression du virus. Après, il y a des différences sur la tactique. Il y a une manière très primaire de le faire, qui est le confinement, plus ou moins obligatoire. Et puis, il y a une manière un peu plus sophistiquée, quand on en a la possibilité, qui est les tests, les masques. Et donc, en gros, tous les pays européens aujourd'hui sont sur la deuxième stratégie. On ralentit la progression du virus. Et après, en fonction des armes dont on dispose, on est sur la tactique la plus primaire ou la plus sophistiquée. Et puis parfois, on passe, c'est ce que nous allons faire, de la tactique la plus primaire à la tactique la plus sophistiquée au fur et à mesure qu'on est capable de le faire.